12h30, 1h, la Libre Antenne. Olivier Delacroix.
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, c'est la Libre Antenne. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce soir jusqu'à 1h du matin en direct. Et puis bien évidemment, à 1h du matin, vous retrouverez Sabine Marin pour la rediffusion de l'émission de Libre Antenne de vendredi dernier. Mais pour ce soir, nous sommes là pour vous écouter, pour partager avec vous votre histoire et peut-être aussi avancer en votre compagnie. La Libre Antenne, c'est vous qui nous écoutez, c'est votre espace de parole. Europe 1 est votre radio. Votre radio jusqu'à 1h du matin, 39 21, 50 centimes d'euros la minute, ou le 7 39 21, 50 centimes d'euros aussi le SMS. Vous pouvez appeler au 7 39 21, vous pouvez envoyer vos commentaires, vos conseils, vos interrogations aussi. Et puis bien évidemment, vous pouvez nous écrire sur libreantenne@europe1.fr. Pour ceux qui sont le plus connectés d'entre vous, ensuite, eh bien, il y a notre groupe de parole, Olivier Delacroix, Sabine Marin, La Libre Antenne sur Facebook. Cette Libre Antenne du lundi 14, eh bien, écoutez, qu'en dites-vous? Elle est partie.
Venez vous confier à Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Rémi au 39-21. Bonsoir Rémi.
Bonsoir.
Comment allez-vous?
Très bien, merci.
Alors, vous voulez nous parler de quoi, Rémi, ce soir?
De comment mon mari et moi avons eu une petite fille au Canada.
Ah, très bien. Alors ça m'intéresse beaucoup parce que je ne connais pas vraiment toute la procédure pour... on parle donc de GPA, c'est ça?
Exactement.
D'accord. Est-ce que, alors avant que vous commenciez, je voudrais savoir quel était votre sentiment par rapport à la GPA, à la GMA, quelle position aviez-vous avant?
Très honnêtement, avant, on ne savait pas trop quelle position on avait. C'est des questions qu'on ne se posait pas nécessairement. On savait que ça existait. On ne savait pas dans le détail comment ça se passait et on n'avait pas une réelle position sur le sujet, ni l'un ni l'autre.
D'accord. Alors, vous êtes papa depuis combien de temps maintenant?
Bientôt 2 ans et demi.
D'accord. Petite fille, petit garçon?
Une petite fille qui s'appelle Ava.
D'accord. Alors, pourquoi la GPA, Rémi?
Déjà en premier lieu parce que le processus d'adoption pour les couples homosexuels est quand même très 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 compliqué et qui frôle l'impossible. Du coup, c'était déjà quand même un premier frein. Du coup, il restait pas 50 solutions pour faire face à notre désir de paternité et qui plus est. Pour moi, c'était un peu moins important, mais pour mon mari, c'était extrêmement important qu'il y ait une filiation génétique dans notre couple avec notre enfant.
D'accord. Alors, la procédure, en fait, on commence par où? Comment ça se passe?
On commence par s'enseigner de comment ça se passe, se poser des questions, savoir ce qui est important pour nous, qui n'est pas nécessairement ce qui est important pour les autres couples qui ont recours à la GPA.
Oui.
On se renseigne les différents pays dans lesquels la GPA est autorisée et comment ça fonctionne dans chacun de ces pays-là pour savoir ce qui nous correspond le mieux et ce qui fait le plus face à nos attentes pardon, et nos craintes. Et puis après, on prend contact avec différentes agences pour savoir, notamment, en général, ils travaillent à peu près tous de la même façon, mais les interlocuteurs avec lesquels on se sent le mieux, en fait, et le plus à l'aise pour pouvoir aller plus loin.
Parce que quels sont les pays aujourd'hui, en tout cas les pays où ça se pratique depuis longtemps et où tout cela est assez rodé, finalement?
Notamment le Canada et les États-Unis.
Le Canada et les États-Unis, d'accord.
Ouais, pour les endroits où c'est le plus éthique, pour reprendre la formule à la mode. Après, il y a d'autres pays où c'est peut-être un peu moins respectueux de chacun des intervenants. En tout cas, Canada et États-Unis, ça se passe depuis longtemps et c'est totalement accepté et développé et démocratisé là-bas.
D'accord. Alors, votre choix s'est porté sur le Canada.
Sur le Canada, oui.
Pourquoi?
Pour tout un tas de raisons, et notamment parce que mon mari va au Canada tous les ans pour le travail, et que ça nous permettait de garder un lien avec, enfin à ce moment-là on ne savait trop rien, mais un lien avec les différentes personnes qui intervenaient dans le processus, et de se dire qu'on pourrait avoir des contacts plus faciles et plus réguliers après.
D'accord. Et alors comment est-ce qu'on rentre en relation avec ces associations? Est-ce qu'elles ont des antennes en Europe ou on est obligé de se rendre directement là-bas?
Alors, la majeure partie des échanges se fait, enfin avec les agences en tout cas, se fait par Internet, par téléphone, oui. Par mail. En Europe, il n'y a pas d'antenne à ma connaissance. Il y a une association américaine qui s'appelle Men Having Babies qui fait un salon, un colloque, je ne sais pas trop comment dire, tous les ans, en général, c'est en Belgique. Effectivement, et qui regroupe un certain nombre de cliniques et d'agences, principalement américaines, même s'il y a des canadiennes aussi, pour pouvoir les rencontrer et faire un peu de pédagogie sur comment se passent les choses. Et après non, c'est chacun doit faire des recherches sur Internet et essayer de contacter des agences et de voir un petit peu comment ça se passe et avec qui on a envie de travailler.
Est-ce que il y a eu différents critères qui vous ont poussé plus vers le Canada au final?
Il y avait, outre l'appétence pour le pays, c'est vrai qu'on avait aussi, au Canada, les nageuses ne sont pas rémunérées, elles sont défrayées, des frais engagés, liés, inhérents à la grossesse, bien évidemment, au sens large, parce que ça commence avant la grossesse, ça finit après, mais tout ce qui est lié à la grossesse, et ça nous correspondait mieux, parce que du coup, on se disait que nécessairement, une femme qui ne serait pas rémunérée pour ce service le ferait pour les bonnes raisons et n'aurait pas de difficulté à le vivre après.
D'accord. Alors, ça a sûrement quelque chose d'assez froid au début, toutes ces démarches pour avoir au bout du compte un enfant. Est-ce que vous avez été saisi par ça aussi, par le côté administratif?
Oui, les premiers mois, c'est pas très beau. Les premiers mois, on fait de l'administratif, du juridique, on rencontre les agences, on choisit, on signe les contrats, on les relie, on rédige des profils, notre profil. Parce qu'effectivement, je reviens sur l'action d'avant en même temps. Là, au Canada, je sais qu'il y a des agences aux États-Unis aussi, mais au Canada, c'est la mère porteuse qui nous choisit, donc sur la base d'un profil qu'on a rédigé. On passe beaucoup de temps à le faire aussi. Effectivement, on a des contacts juridiques et administratifs qui sont froids, impersonnels, qui sont un peu rebutants et lassants quand même au bout d'un moment. On n'a pas trop le choix et on sait quelle est la finalité. Donc on prend son mal en patience en se disant que ça sera forcément plus joli après. Et effectivement, ça devient beaucoup plus joli après.
C'est la mère porteuse qui vous choisit. Alors ça c'est spécifique au Canada ou à l'agence que vous avez choisie? Parce que j'avais l'impression que pour d'autres couples, ils avaient eu le choix de la mère porteuse par rapport aux États-Unis. Hein, plutôt, j'ai plutôt rencontré.
Alors, je sais qu'aux États-Unis, il y a quelques agences qui fonctionnent de la même façon. Au Canada, à l'époque où nous, on a réalisé notre projet, il n'y avait que deux agences. Les deux travaillaient un peu de la même façon. Et du coup, on a un profil qui est très détaillé, où on raconte tout ce qu'on veut, en fait, ceci dit, et que l'agence présente aux mères porteuses qui sont candidates. Et elles s'en sélectionnent. Elles disent, voilà, moi, j'aimerais bien rencontrer ces gens-là et voir si on peut continuer ensemble. À ce moment-là, on nous soumet son propre profil qui est beaucoup plus succinct que le nôtre pour savoir si ce qu'il y a en tout cas nous correspond. Et puis le cachet, on nous met en contact pour qu'on puisse faire connaissance et on nous laisse d'ailleurs le temps qu'on veut. Si trois jours après, ça paraît un peu improbable, on se dit oui, c'est bon, on veut y aller, tout va bien. Ou si on veut discuter et continuer à faire connaissance pendant 6 mois, 8 mois, 1 an. On prend le temps qu'il faut et à l'issue de ce temps-là, on dit à l'agence, oui, écoutez, il n'y a vraiment aucun souci, c'est vraiment la personne qui nous convient et inversement d'ailleurs, parce qu'elle a le droit de dire non, oui. Ou écoutez, non, l'un ou l'autre, que ce soit elle ou le couple, dire non, ça ne va pas, ça ne le fait pas, donc on voudrait avoir quelqu'un d'autre ou elle dira, présentez-moi un autre couple parce que celui-là ne me convient pas.
Oui, vous avez quand même une certaine marge de manœuvre.
Oui, ce n'est pas une imposition, on ne nous impose pas de dire, voilà, elle vous a choisi, allez-y.
D'accord.
C'est elle qui fait le premier pas, après, voilà, on discute et on voit.
Alors racontez-moi comment ça s'est passé avec cette mère porteuse, les premiers contacts, qu'est-ce que vous lui avez trouvé, puis, parce qu'elle a tout de même un rôle super important pour vous, parce que c'est elle qui va porter votre enfant.
C'est ça.
Comment ça s'est passé avec elle?
Au début, ça a été un peu, je dirais compliqué. C'est pas vraiment compliqué, mais j'ai pas d'autres mots qui me viennent parce qu'elle était déjà pas férue de technologie, donc elle savait pas faire fonctionner Skype.
Ouais.
On ne pouvait pas se skyper et elle voulait qu'on s'écrive par mail. Ce qui fait que c'était un peu, du coup, c'est un peu froid. Et on attendait désespérément derrière notre écran qu'elle nous réponde, qu'elle renvoie un mail. Et elle est, enfin, on l'a découvert bien après, mais elle est archi supra timide, ce qui fait qu'elle n'était pas extrêmement loquace dans les premiers temps.
Elle n'était pas très à l'aise.
Ouais, non, nous non plus, mais nous on prenait sur nous parce qu'il fallait qu'on la séduise pour qu'elle décide de continuer à travailler avec nous. Mmh. Et c'est vrai que nous on prenait garde de faire des mails où on posait plein de questions très longs en anglais, où on s'intéressait, on racontait notre vie, etc. Et puis tu allais répondre. Alors pour le coup, il y avait aucune difficulté, elle répondait à toutes nos questions, etc. Mais il y avait pas, c'était pas nourri, elle nous interrogeait pas parce qu'elle osait pas.
Ouais.
Jusqu'au jour où quelqu'un de son entourage a enfin appris à faire fonctionner Skype et où elle s'est dit bon, ça se passe bien, je suis timide, mais allons-y. Et puis on s'est appelé en vidéo, on a parlé pendant, je sais pas, je crois qu'on a dû parler 1h30, 2h, un truc comme ça. Il y avait un de ses enfants qui était avec elle. Enfin, c'était pour le coup là, c'était beaucoup plus détendu et on était plutôt à l'aise et ça se passait vraiment bien. Ça faisait, je sais plus, ça devait faire 3 mois qu'on parlait ensemble, je pense 2 mois, un truc comme ça. Et à la fin du Skype, on lui a dit bah écoute, je sais pas ce que t'en penses, peut-être que tu veux réfléchir et peut-être que c'est pas très clair pour toi pour l'instant, mais en tout cas, si toi tu veux continuer, nous on a vraiment très envie de continuer avec toi parce qu'on se sent bien et que tu corresponds à ce qu'on recherchait, donc voilà.
C'était la première fois qu'elle faisait ça ou
c'était la première fois.
Ouais, d'accord.
La
première fois. Donc on peut comprendre qu'elle avait elle aussi une certaine appréhension.
Bien, une appréhension, bien sûr. Ah bah oui. Oui, et puis encore une fois, puis au-delà de, enfin, il avait son appréhension qui est plutôt légitime et compréhensible, et son caractère plutôt réservé, introverti. Les deux mis bout à bout, c'était effectivement un peu compliqué.
D'accord. Alors, vous allez peut-être trouver cette question assez naïve, mais bon, je la pose quand même, hein, parce que c'est le sperme de votre mari ou votre sperme qu'on utilise à ce moment-là, ou comment on choisit ça aussi?
Alors là, pour le coup, c'est une question qui est très personnelle à chacun des couples.
D'accord.
Le comment on choisit, je pense qu'il y a autant de réponses que d'histoires et de couples, à mon avis.
Oui.
Il y a un certain nombre de personnes qui choisissent pas, qui tentent d'inséminer un embryon de chacun, en gros.
D'accord.
Puisqu'on peut féconder chacun de notre côté les ovules de la même donneuse, si on le souhaite. Et après, je pense qu'il y a, à mon avis, enfin voilà, je pense qu'il y a autant de réponses que de couple. Nous, en l'occurrence, c'était le sperme de mon mari, dans la mesure où, encore une fois, pour lui, c'était important d'avoir un enfant biologique à nous. Et moi, j'ai toujours considéré que la biologie faisait pas la filiation et que j'aimerais mon enfant qui m'aimerait autant que si c'était mon enfant biologique et génétique.
Alors, cette maman porteuse est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte à quel moment ?
Elle est tombée enceinte en septembre 2016.
2016. Donc, à partir de ce moment-là, je suppose qu'à partir de ce moment-là, la vie change, en fait. Comment vous avez appréhendé tous ces mois, en fait ? Comment ? Parce que c'est votre grossesse aussi, hein, sans être votre grossesse.
Exactement. Non, mais c'est vrai, on est enceinte.
Ouais.
Les premiers mois sont très compliqués parce qu'on est très heureux, en même temps très stressé, comme je pense tout couple qui attend un enfant depuis quelques semaines, puisque c'est pas, y a pas de certitude. Alors, jusqu'à la fin de la grossesse, il y a pas de certitude, mais les 3 premiers mois, on sait que c'est quand même particulièrement risqué.
Ouais.
On est séparés par un océan. Avec 6 heures de décalage horaire. Et c'est vrai que je me souviens que pendant 3 mois, alors peut-être pas 3 mois entiers, mais pendant 3 mois, on se réveillait tous les matins en attrapant notre téléphone pour vérifier qu'elle ne nous avait pas envoyé un message pour voir s'il y avait un problème. Parce qu'on savait très bien qu'après, jusqu'à entre 12 et 14 heures suivant les jours, on n'aurait plus de nouvelles et qu'elle continue à vivre après qu'on se couche. Et du coup, c'était assez compliqué quand même de ce stress pendant les premiers mois. Et puis au début, pour être tout à fait franc, de dire qu'on est quand même très heureux, très excité, mais qu'on réalise pas des masses en fait.
Ouais, c'est ça.
Enfin, on vit pas la grossesse en fait. On n'est pas là. Elle a beau, on se parlait tous les jours, plusieurs fois par jour. Ça, après, pour le coup, on échangeait via Messenger ou WhatsApp, etc. Donc, il y avait pas de difficulté. On échangeait vraiment beaucoup. Mais elle nous envoyait des photos. Alors au début, son corps change pas des masses. Donc après, elle nous envoyait des photos de son ventre, mais bien plus tard. Donc c'est vrai qu'au début, c'est assez compliqué. On a vraiment, vraiment réalisé quand on est allé au mois de janvier pour l'échographie des 5 mois, on est allé les rencontrer et passer une semaine avec eux. Et là, du coup, on a vu l'échographie, on a vécu avec elle, elle était à côté de nous, il y avait son ventre, etc. Là, c'était, on a vraiment réalisé à ce moment-là. Mais c'est vrai que pendant les premiers mois, entre la distance, le décalage horaire, le fait de pas assister physiquement aux choses, c'était un peu compliqué quand même. Et un peu frustrant.
Ouais, je suppose que la première échographie, ça doit être un moment d'émotion très intense. Ça a dû pour vous, en tout cas.
Alors oui et non, parce qu'au Canada, c'est quand même assez particulier. Et quand on fait une échographie pour une grossesse, quel que soit le cas de figure, parce qu'un couple hétérosexuel, c'est la même chose, il n'y a que la femme qui va à l'échographie.
D'accord.
Et alors, une échographie à 5 mois, c'est, je ne sais plus comment on l'appelle, morphologique ou je ne sais plus trop quoi, qui dure très longtemps parce qu'on mesure absolument tout. Donc elle est absolument toute seule. Et à la fin, on vient chercher le père, ou en l'occurrence les pères, et on passe 5 minutes dans la salle où on nous presse un peu parce qu'il faut partir et qu'on a bien vu que tout allait bien. Donc pour le coup, c'était en même temps un grand moment d'émotion parce qu'on a appris le sexe de notre fille, enfin, de notre bébé, que c'était une fille. Donc on était émus, on l'a vu. On nous avait envoyé des photos de l'échographie d'avant, mais c'était quand même pas la même chose que de l'avoir touché, etc. Mais c'était en même temps, alors pour le coup, encore une fois, très frustrant parce que les mœurs du pays font que qu'on n'assiste pas réellement à l'échographie. En revanche, le lendemain de l'échographie, on a été chez la sage-femme, où là, Jennifer était monitorée, donc on entendait le cœur de notre fille, ses coups de pied, parce que les coups de pied font du bruit, ce qu'on a appris à ce moment-là. Et là, pour le coup, c'était parce que là, on avait le temps, et c'était pas pressé, et tout allait bien. Donc là, c'était plus émouvant, finalement, que l'échographie.
Donc, Ava est née, et elle a 2 ans et demi aujourd'hui. Comment...
Oui.
Comment ça se passe? Parce que ça fait partie aussi des interrogations, pour ceux qui ne connaissent pas, autour des liens qu'on garde avec la mère ou pas. Ce sont des choix très personnels aussi, ça. Parce que vous avez la possibilité de rompre, si vous en avez envie. Je ne connais pas beaucoup de couples qui brisent le lien avec la mère porteuse. Mais,
je ne connais pas non plus.
Vous, qu'en est-il pour vous?
Nous, on a de la chance, on est en lien avec la mère porteuse et avec la donneuse. Avec la donneuse, c'est plus rare qu'avec la porteuse, puisque il y a pour les donneuses, il y a quand même beaucoup de jeunes filles. Alors là, à l'inverse de la mère porteuse, où il y a vraiment un vrai engagement psychologique, une envie d'aider son prochain, de faire quelque chose, etc. Pour les donneuses, c'est vrai qu'il y a quand même un aspect plutôt financier pour certaines, parce que c'est quelque chose qui est compliqué et qui engage, mais qui engage sur une quinzaine de jours. Et oui, pour le coup, elles sont rémunérées pour leur acte. Donc il y a quand même un certain nombre de personnes qui le font et qui veulent être inconnues. Nous, ce qu'on souhaitait initialement, et c'était un peu compliqué parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui veulent, c'était effectivement connaître la donneuse et pouvoir avoir des liens avec elle et que notre enfant puisse la contacter dans un certain nombre d'années si notre enfant le voulait. Et c'est vrai que quand on a trouvé, quand on a choisi notre donneuse, l'agence qui gère les donneuses nous a écrit en disant voilà, nous on la connaît, c'est une jeune fille qui est extraordinaire, mais elle va vouloir vous parler, vous connaître, est-ce que ça vous embête? Donc nous, c'était pour le coup, c'était du pain de béni, parce que c'était vraiment ce qu'on souhaitait. En plus, le premier mail qu'on a reçu d'elle, c'était le 13 novembre, en plein milieu des attentats. Donc, il y avait quand même une résonance particulière pour nous aussi, parisiens, d'avoir son mail à ce moment-là. Et on est toujours en contact avec les deux. Le hasard fait qu'elles habitent dans la même ville, ce qui est quand même compliqué au Canada, vu l'étendue du pays. Et du coup, on a des contacts avec les deux. Mon mari les a encore vus en septembre quand il est retourné à Toronto pour le travail. On est allé en vacances au Canada il y a un an, donc Ava avait presque 1 an et demi. La donneuse avait fixé la date de son mariage en fonction de notre présence pour qu'on puisse être là. Donc on se parle de moins en moins, les liens, c'est pas les liens qui se distendent, en tout cas c'est la fréquence de nos échanges qui s'étend un peu parce que
c'est normal, chacun
nos vies, des enfants, etc. Ceci dit, à chaque fois qu'on se parle, et mon mari me l'a confirmé en vrai, quand il les a vus, on a l'impression de s'être quitté la veille et il n'y a aucune gêne. On est toujours aussi proches et aussi contents de se parler, de se suivre les uns les autres.
Alors, Ava aujourd'hui a 2 ans et demi. Hein, donc, je suppose que c'est une petite pipelette qui pose des questions, comme toutes les petites filles. Est-ce que vous lui parlez de la GPA ou est-ce que votre choix a été de lui dire lui expliquer comment elle était née ou c'est pour plus tard?
Non, on lui explique depuis qu'elle est née.
D'accord.
Alors au début c'était un peu ridicule parce qu'elle avait quelques semaines et on lui racontait ça. On avait pris le parti de lui raconter dès qu'elle est née, Alors, on a attendu de rentrer en France pour le faire, ceci dit, parce que c'est un peu bizarre de lui expliquer ça alors qu'on était encore au Canada et qu'elle ne connaissait pas sa famille biologique. On lui en parlait, on avait pris le parti de le faire et de le faire plus ou moins régulièrement pour que ce soit naturel pour nous et de ne pas avoir à se dire, en fait, on veut attendre qu'elle comprenne et de se dire que potentiellement, on va rater un peu le coche et qu'elle aura des questionnements qu'elle nous aura pas, des questions qu'elle nous aura pas posées ou qu'elle attendra ou qu'on l'aura fait... On aura peut-être attendu trop ou pas assez, et qu'après, ce ne sera pas naturel de lui dire. Enfin, on se dit que si on le faisait régulièrement depuis sa naissance, ça serait naturel, il n'y aurait aucun tabou, elle pourrait encore, elle aussi, continuer à poser des questions et pas avoir de difficultés. Et là, en ce moment, elle a une passion pour regarder des photos et des vidéos d'elle juste après l'accouchement à la maternité. Donc c'est l'occasion, et c'est vrai qu'en ce moment, on lui en parle plutôt pas mal, on l'explique avec des mots... plus que simple, puisque c'est un concept qui est un peu compliqué pour elle.
Oui.
Mais on lui explique que quand on veut faire un bébé, il faut un monsieur et une dame, et que nous, on s'aimait, qu'on voulait un bébé, mais qu'on était deux monsieur, donc on ne pouvait vraiment pas avoir de bébé, et qu'on a demandé si Tata Véronica ne voulait pas nous donner une graine pour mettre avec nos graines, et qu'après, ça a fait un tout petit bébé qu'on a mis dans le ventre de Tata Jennifer, et qu'il a grandi, qu'après il est sorti, que c'était elle, et qu'on avait enfin notre bébé avec nous, et qu'on pouvait être heureux tous les trois.
Et alors, Ava va chez une assistante maternelle, ou elle va à la crèche? Oui.
Elle va à la crèche.
Comment ça se passe pour vous, parents? Parce que j'ai envie de... Pour Ava, ça a l'air de se passer merveilleusement bien. Mais pour vous, parents, est-ce que lorsqu'on est un couple comme vous, est-ce qu'on se sent un peu pointé du doigt lorsqu'on va chercher son enfant? Est-ce que vous sentez une sorte de pression sociale sur vous?
Alors au début, oui. Et à chaque... À chaque changement d'interlocuteur, que ce soit le pédiatre, la crèche, etc. Pendant longtemps, mais ça, j'en ai parlé avec d'autres garçons, on a tous un peu le même comportement. On a un peu l'impression d'être attendu au tournant et qu'on doit faire mieux que les autres. Que forcément, on va dire qu'on s'occupera moins bien de nos enfants et que du coup, on doit être encore plus parfait que les autres parents. Pour le coup, ça passe un peu. Et on a compris qu'on était des parents normaux et que personne ne nous attendait au tournant et que personne n'allait nous lancer des cailloux parce qu'on ne savait pas s'occuper de notre enfant. Après, on a cette crainte à chaque fois qu'on va à l'hôpital chez le médecin, à la crèche, qu'il y a une nouvelle assistante maternelle, une nouvelle directrice adjointe, une crèche de vacances, etc. Objectivement, pour l'instant, dans un cadre médical ou professionnel, il n'y a jamais eu aucune difficulté. Nous, on nous a prévenu dès le premier jour à la crèche que notre histoire, on s'en fichait, qu'on était deux parents comme les autres, que ça ne les regardait pas, qu'on avait eu notre fille comme on voulait, que c'était très bien, donc en tout cas, c'était notre fille, et qu'il n'y aurait pas de traitement, et qu'il n'y avait pas de différence avec un couple hétérosexuel qui avait un enfant de façon plus classique que nous. Donc, et les professionnels qui s'occupent d'Ava, qui sont toutes des femmes extraordinaires, nous ont jamais fait sentir quoi que ce soit, bien au contraire, je sais que depuis sa naissance, enfin, entre-temps, on est les deux parents légaux d'Ava, j'ai été adopté. Le jour où on a eu la décision d'adoption, la crèche, elle le savait parce qu'on leur avait dit, et j'ai été attendu par des hurlements de joie. Donc il n'y a pas de... Il n'y a vraiment aucune difficulté là-dessus.
Globalement, tout ça m'a l'air parfait quand même. Vous avez l'air de filer un bonheur parfait tous les trois.
Bah ouais, dans l'ensemble.
Ouais, mais c'est important. Merci hein, de nous appeler parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de la GPA à l'occasion de la loi hein, qui est discutée à l'Assemblée, de ces manifestations. Voilà. Et donc, du coup. On entend rarement la parole de ceux qui le vivent vraiment, hein, parents et enfants. Et pour ça, merci d'avoir pris de votre temps, de nous raconter cette histoire d'amour, de famille. C'est important parce qu'aujourd'hui, quoi que certains puissent en penser, c'est quelque chose qui fait le bonheur de plein d'enfants et de plein de parents. Donc merci mille fois d'avoir porté votre parole ce soir dans cette libre antenne.
Merci de l'opportunité.
Je vous en prie. Passez une bonne soirée,
Rémi.
Merci beaucoup. Bonsoir.
Je vous en prie. Au revoir.